Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau sur Europe 1.
La soirée sport sur Europe 1. Parlons de l'équipe de France Espoir, les Bleuets, ces magnifiques générations des Bleuets qui sont engagés dans l'Euro, l'Euro Espoir, qui se déroule en deux parties et une première rencontre qui s'est soldée par une défaite face au Danemark. On en parle avec Patrick Julliard, Nabil Djellit, Arnaud Herman et Laurent Fournier. Savez-vous, je sais que vous avez la réponse, mais j'aime bien faire ce tour de table, savez-vous quand l'équipe de France a remporté le dernier Euro Espoir? En quelle année?
1988.
Voilà. L'équipe de Sauzé, Stéphane Favre,
Vincent Guérin notamment, absolument. Depuis Laurent Fournier, depuis 1988, l'équipe de France Espoir n'a plus remporté l'Euro. Ça paraît incroyable avec les générations, mais incroyables de joueurs immenses qu'il y a eu. On n'a pas gagné l'Euro depuis 88, ça paraît impensable.
Bah, impensable, oui. Après, c'est sûrement une question de motivation. Tous les joueurs de l'équipe Espoir en ce moment sont dans les clubs pro, jouent en première division. Avant, quand vous étiez en Espoir, vous étiez fier d'y aller. Vous aviez envie de partager quelque chose. Moi, j'ai fait 83 avec les juniors où on avait gagné en Angleterre. Maintenant, on a l'impression que c'est une obligation d'aller en Espoir parce que si vous n'y allez pas, vous n'allez pas jouer en A. Mais vu le talent, après, il y a moins de collectifs. Il y a plus des joueurs individuels. Mais c'est dommage parce que ça fait. Pour passer le cap, c'est bien de passer par ces sélections-là.
Comment vous l'expliquez, Nabil Djellit? Phénomène assez incroyable, moi, je trouve, franchement, parce qu'il y a d'autres nations avec des grandes générations qui ont eu des titres chez les jeunes et chez les A. Et nous, la France, on a ce vide abyssal depuis 1988.
Il y a plusieurs explications. Laurent en a donné une, je pense, cette histoire de motivation dans cette catégorie, notamment. Des espoirs, parce que vous avez des joueurs qui voient plus ça forcément comme une promotion. Ils ont déjà signé des gros contrats, ils sont déjà dans des gros clubs, et pour certains, ils ont déjà même évolué en équipe de France A, et ils voient ça quand ils reviennent en équipe de France Espoir, bah un peu comme un redoublement à l'école. En gros, je suis passé avec les grands et on me fait revenir à...
Camavinga, par exemple.
Voilà, Camavinga, mais par le passé, on peut en trouver d'autres. On sait que, par exemple, à un moment, Thierry Henry, il en a même témoigné, il était champion du monde, et subitement, on lui demande de revenir chez les espoirs. Bon, ça n'a pas forcément, à ce moment-là, boosté sa motivation d'une manière incroyable.
Ça a été le cas de Djibril Cissé aussi, à une époque, pour renforcer les espoirs.
Tout à fait. Il était
passé en A et il était redescendu. Oui.
Alors, il y a cet aspect-là, parce que nous, on est champion d'Europe sur la liste, hein, vous avez raison. À chaque fois qu'on voit la liste, on effraie tout le monde. Mais bon, c'est pas la PlayStation.
Mais j'ai envie de dire quasiment à chaque génération, Nabil.
Parce qu'on est assis sur du pétrole et on a une densité de joueurs absolument incroyable. Et on rencontre souvent des collectifs mieux huilés, avec des joueurs qui n'ont pas encore fait leur trou, forcément, donc qui ont quelque part une motivation qui est décuplée. Après, il y a aussi l'identité de jeu. Moi, je trouve que l'identité de jeu du football français, parfois, dans les catégories jeunes, même jusqu'en A, même si Deschamps était pragmatique, il a fait un choix, parfois, c'est flou. On ne comprend pas ce qu'on veut. On a l'impression qu'on prend un patchwork de joueurs, on les associe, et on a toujours un minimum, parce qu'on a tellement de talent, puisque c'est des joueurs qui finissent souvent dans des grands clubs, qu'on arrive quand même, globalement, à s'en sortir. Mais dès qu'on joue contre des équipes qui travaillent depuis longtemps ensemble avec un logiciel de jeu, je pense notamment à l'Espagne l'Allemagne, l'Angleterre maintenant, et ben on est en difficulté. On est même en difficulté contre des nations intermédiaires.
Le Danemark.
La preuve, le Danemark. Mais j'ai déjà vu des matchs où l'équipe de France était mise à mal par des pays de l'Est, par exemple. Où ça jouait pas trop mal. Donc je pense qu'en fait, c'est une catégorie qui est, entre guillemets, si je puis me permettre l'expression, qui est bâtarde, entre guillemets. C'est en gros, c'est me faire remarquer pour aller chez Léa, mais pas plus.
Les Camavinga, Aouar, alors il est forfait parce qu'il est blessé, mais il était retenu en espoir et pas en équipe de France. On peut-être, Patrick Julliard, était déçu de ne pas être appelé. Alors il y a toujours la chance d'être rappelé pour la deuxième phase de cet Euro un peu particulier, mais tout de même, ça a dû être une déception d'être appelé en espoir plutôt qu'en A.
Depuis 88, il y a un gros changement dans le calendrier, dans le football international, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs. Que ce soit des matchs amicaux, que ce soit des matchs d'éliminatoires, parce que l'Europe, le bloc de l'Est a explosé, il y a de plus en plus de pays en Europe, donc les éliminatoires sont plus longues, c'est plus dense, donc finalement c'est plus simple aujourd'hui d'avoir des sélections en équipa que ça ne l'était dans les années 80. Donc je pense que ça banalise un peu les choses, le fait d'être international français, que ça banalise. Ces joueurs, à contrario, ils sont de plus en plus jeunes, titulaires dans des grands clubs. Le championnat de France est réputé pour être la ligue des talents et donc les clubs étrangers viennent piocher. Non, mais ils viennent. C'est vrai que c'est un championnat de joueurs. C'est un championnat où les clubs étrangers fortunés viennent recruter en masse. Ces joueurs-là sont aguerris au plus haut niveau beaucoup plus tôt qu'ils ne l'étaient à l'époque de Laurent. Et moi, je pense que ça ajouté aussi au fait que il n'y a pas une vraie volonté de la DTN et des instances de se servir des équipes de jeunes pour créer une identité de jeu française. Et je vais être un peu direct et violent, mais le choix des sélectionneurs aussi, ça montre quand même qu'on ne s'attache pas beaucoup à l'équipe espoir.
C'est-à-dire que Sylvain Ripoll est là, quoi, juste pour faire les entraînements et porter les plombs.
Il est là parce qu'il n'avait plus de club en Ligue 1 et qu'il a quelques amis à la Fédé. Bon, voilà. Raymond Domenech, il a été très longtemps sélectionneur qui gagnait jamais rien. Il est resté
avec les espoirs, c'est vrai. Voilà. Il a été très longtemps.
Il était finaliste,
quand même. Ouais.
Battu par l'Italie. Hein, ouais.
Dernier sélectionneur qui a gagné quelque chose, on l'a dit, c'est en 90, c'est Marc Bourrier, qui était un très bon technicien, mais qui était plutôt un vrai éducateur plutôt que quelqu'un qui avait des ambitions d'être coach de grands clubs comme ça a pu l'être pour d'autres. Et moi, je trouve que on n'a pas donné les moyens nécessaires. Au niveau technique, au niveau des compétences, pour faire franchir un vrai palier, avoir un style de jeu français. Mais c'est à l'image des réussites et des limites aussi du foot français. C'est-à-dire que je pense que sur un tournoi, sur une durée de 3-4 semaines, on est peut-être les meilleurs pour tirer la quintessence des joueurs, pour créer un style de jeu comme on su le faire les Espagnols ou les Allemands sur vraiment la durée en programmant quelque chose. Là, il y a un déficit de réflexion et même de volonté. Je pense qu'on se contente bien de former de super joueurs parce qu'on a un réservoir exceptionnel en Europe.
Bien sûr.
Et de réussir grâce au talent individuel. Mais l'idée d'une identité collective, on l'avait un peu à l'époque de Hidalgo et de l'équipe de France de Platini. Et je trouve que ça s'est quand même perdu. On n'est plus tellement capable de dire instantanément comment jouent les Bleus depuis les années 90, même s'il y a eu le contre-exemple de l'Euro 2000 un sommet absolu.
Bien sûr, sans doute Arnaud Hermon, parce que l'équipe espoir ou les équipes de jeunes sont considérées comme étant subalternes. Les sélectionneurs eux-mêmes le disent. Sylvain Ripoll, à notre micro le week-end dernier, nous disait « Nous, on est d'abord à la disposition de Didier Deschamps et de l'équipe A. » Ça veut dire que s'il y a des allers-retours à faire, s'il y a des joueurs qu'on doit laisser
priorité
ou A, évidemment. Donc on n'y arrivera jamais.
Oui, mais il y a un paradoxe à tout ça. C'est que les espoirs ressemblent un petit peu, je ne vais pas dire à une génération ou à une équipe sacrifiée, mais presque. Si vous regardez les bilans des équipes de France U17, U19, elles sont régulièrement championnes d'Europe ou finalistes. Et à côté de ça,
champion
vous avez...
du monde U20 à l'époque de Pogba,
par exemple,
et Alexis Bozetti, que je salue.
Et à côté de ça, vous avez de l'autre côté les A, qui sont aussi régulièrement quand même au sommet depuis une vingtaine d'années du foot mondial. Et malheureusement, au milieu, il y a les espoirs. Et bizarrement, les espoirs ne gagnent pas. Alors, il y a une finale, je crois, qui a été peut-être en 2019, où ils étaient demi-finalistes, ou l'édition précédente, ils étaient finalistes. Mais globalement, depuis effectivement 88, il y a quand même un trou assez béant. Et au-delà même de la participation à l'Euro, c'est que plusieurs fois, on n'a même pas été qualifié avec cette équipe-là. Et bizarrement, c'est les mêmes joueurs qui arrivent en espoir, qui étaient peut-être champions d'Europe U17 ou U19. Et on va les retrouver plus tard et ça va refonctionner aussi. Donc c'est bizarre quand même, je trouve. Je n'ai pas d'explication, mais c'est un paradoxe quand même.
Il y a un travail à faire, peut-être plus sur le fond.
Est-ce que les joueurs vraiment ont envie d'aller dans ces sélections? Vous le disiez tout à l'heure. Sincèrement, avant, je pense que les joueurs avaient envie de se battre pour cette équipe.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Non, parce que moi, je vais revenir un peu dans le passé. Je reviens sur un match qu'on avait joué contre la Yougoslavie avec l'équipe de France Espoir, où il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait pas mal de joueurs. On a été dans l'obligation de gagner 8-0, et on avait été gagné 8-0 à Reims. Mais le respect qu'on avait pour les entraîneurs, que ce soit Marc Bourrier, Gabi Robert à l'époque, maintenant, est-ce que ces joueurs... là, qui sont dans les grands clubs, je le regardais encore sur Internet, dans tous les clubs où ils sont, ont envie de venir jouer un match avec l'équipe de France Espoir, contre le Danemark. Leur objectif, s'ils veulent aller en équipe de France, je pense que ça passera pas par l'équipe de France Espoir. Non. Ça va passer par les matchs de Champions League.
La Ligue des Champions.
Mais ça a changé. Il y a eu l'arrêt Bosman. Maintenant, les mouvements des joueurs sont beaucoup plus simples et ils partent beaucoup plus tôt. Il y a moins de restrictions. Donc, c'est vrai qu'ils acquièrent de l'expérience ailleurs que sous le maillot national beaucoup plus tôt. Donc, effectivement, Laurent a raison. Ça dévalorise l'équipe de France Espoir. Ça, c'est la... C'est la, disons, l'évolution du football qui est comme ça. C'est pas qu'en France, mais...
C'est beaucoup en France.
C'est beaucoup en France parce que c'est vrai que comme la France est vraiment d'une efficacité et d'une réussite folle dans les catégories supérieures, bah, les espoirs sont d'autant moins valorisés. Alors que des pays comme, je pense, au Portugal, qui a souvent eu de très, très belles équipes espoirs qui tout gagnaient à fait, souvent... Pour eux, c'était un vrai tremplin. Pour la France, moins.
C'est dommage, Nabil Djellit, parce que si on compare avec l'équipe de France de rugby, alors c'est peut-être pas un bon exemple, puisque les Français ont terminé deuxième du tournoi et ont été battus sur le fil par les Écossais hier. Mais cette équipe-là, cette génération, en tout cas la plupart, faisait partie d'une génération qui a été championne du monde dès moins de 20 ans. Et ce sont des joueurs qui sont habitués à évoluer ensemble. Là, l'équipe de France Espoir en football, c'est pas du tout le cas. Vous avez raison, on est assis sur du pétrole. Ouais. Je cite quelques noms. Ikoné, Koundé, Camara, Aouar, Fofana, Camavinga, Guendouzi. C'est beau, hein, c'est presque une équipe qui pourrait jouer les premiers rôles en Ligue des Champions.
Elle serait pas forcément ridicule.
Vous avez raison, absolument, c'est le cas.
Ouais. Je ne dis pas qu'elle gagnerait, mais elle serait pas ridicule.
Est-ce que c'est un problème de politique, selon vous, alors, au sein de la DTN et de la Fédération, pour essayer d'insuffler peut-être un style de jeu, une vocation, une volonté de faire avancer ces équipes de jeunes Parce que ça sera payant pour les après aussi.
Oui. Mais franchement, on a tellement de joueurs, on a même des joueurs, nous, en France, là, c'est là où c'est exceptionnel, qui ne passent pas forcément par ces catégories-là et qui explosent ensuite en A.
C'est vrai.
Ribéry, je vous en passe, on pourrait faire le...
Valbuena.
Alors, ce qui est intéressant, oui, c'est de manière structurelle. Quelle ligne directrice pour le football français ? Et donc, d'apporter peut-être d'autres influences, d'autres manières de voir... Ils ont déjà quand même évolué parce qu'à un moment, ils ont quand même changé un peu. Ils ont été sur d'autres profils de joueurs. Il y a eu des débats là-dessus. On a été sur des joueurs peut-être un peu plus techniques, qui prennent moins sur l'aspect athlétique ou moins dans l'impact. On sait qu'ils ont travaillé.
Il y en avait contre le Danemark, Fèvre, Guiri, par exemple.
Et je pense qu'il y a déjà une évolution un peu dans les choix des profils. On a une plus grosse c'est plus hétéroclite, je trouve que c'est déjà intéressant. Mais après, on va se le dire honnêtement, est-ce qu'on a besoin d'être champion d'Europe espoir? On est champion du monde en A. Quand on sait que Patrick, il a raison, on est un championnat de joueurs, on n'est pas un championnat de match.
Ouais. Mais alors, je vous retourne la question, est-ce qu'on a besoin aussi d'être champion olympique ou de participer aux Jeux olympiques, puisque c'est cette équipe, c'est cette génération qui va y aller à Tokyo quand on est champion du monde en A?
Oui, je pense qu'on a besoin d'aller effectivement au JO parce que ça a une résonance.
Mais de gagner les Jeux Olympiques.
La France, je pense que c'est un pays concrètement qui doit toujours jouer
84.
La gagne. Qui doit toujours jouer la gagne.
La 1984. C'est la dernière fois. 1984. Pour
mais après,
de
vous savez, c'est là où c'est un peu entre deux chaises, si je puis me permettre. Hein, j'utiliserai pas le mot, mais. Franchement, il y a des joueurs, ils n'ont pas envie d'être là. Je ne peux pas me mettre à leur place, mais je sais très bien qu'ils préfèrent être avec Didier Deschamps, à jouer le Kazakhstan.
Oui, mais ok, Nabil. Mais on va prendre la liste des. Je ne sais pas combien ils sont, là, l'Euro Espoir 23. Combien seront en équipe de France A derrière?
Pas beaucoup.
L'Euro, vous voulez dire, ou plus tard?
Non, plus tard.
Camavinga,
pas beaucoup, peut-être. Pas beaucoup.
Bah, Camavinga,
pas beaucoup.
On peut
je
dire,
vous prends le pari qu'il n'y en aura même pas 5.
Il connaît peut-être.
Et encore, il y a déjà. Ils ont tous déjà été.
Eux, c'est leur objectif.
Non, moi, je pense que le seul qui était heureux d'aller en espoir, c'était Lorienté.
Oui.
Ah, voilà.
Qui a été appelé pour remplacer Aouar, qui était forfait.
Ouais, mais c'est mérité. Je pense que quand il a dû apprendre sa sélection, il avait très envie d'y aller et puis envie de se faire voir et envie de participer à une aventure. Eux, ceux qui sont en espoir, ont envie de participer à une aventure avec leur club.
Ils sont blasés.
Oui, je pense qu'ils ont plus envie de se faire mal par rapport à ces sélections-là.
Parce que qu'est-ce que ça va changer à la cote de Camavinga d'être bon ou pas avec les espoirs? Les top clubs, ils vont le regarder
si
dans le championnat de France.
Si tu remportes l'Euro quand même, Nabil.
C'est vrai que ça donne une valeur ajoutée, mais l'Orienté, ça peut changer sa vie. Il est au FC Lorient. Déjà, le FC
Camavinga,
Lorient.
Non, c'est sûr.
Le FC Lorient vont être contents parce que ça valorise leur joueur. D'ailleurs, c'est mérité parce que c'est un très bon joueur et
une bonne saison.
Intéressant. Lui, oui, pour lui, ça peut avoir un impact réel. Pour les autres, à titre individuel, oui, ça peut leur faire gagner un peu de valeur.
Bon, l'équipe de France Espoir joue demain contre la Russie à 21h. On espère qu'ils vont se rattraper, les Bleus de Sylvain Ripoll.
C'est intérêt.
Et après,
sinon,
il y aura
ça
un match
aussi,
mercredi contre l'Islande.
Oui. Qu'on voit du jeu, surtout.
Patrick.
voit du jeu.
Ouais, oui, oui, qu'on voit du jeu. Bah, il faudrait qu'ils s'entendent, les gars, que le groupe vive bien, comme on dit. En utilisant un poncif de footballeur. Le groupe vit bien, alors est-ce que ce groupe vit bien ? Là aussi est la question. D'autres débats à venir dans quelques instants, on parlera de Stéphane Moulin, qui va quitter Angers avec un long bilan, alors de 10 ans avec l'équipe première, mais beaucoup plus avec le club d'Angers. Mais avant cela, puisqu'on est en direct sur Europe 1, 21h32, je donne quelques évolutions de score ou quelques résultats de foot. Le foot féminin, tiens, d'abord en championnat, la D1 Arkema, le PSG s'est imposé 3-0 contre Montpellier. Il y avait du national également aujourd'hui. Annecy va finir par se sauver, hein, puisqu'Annecy s'est imposé à Lyon sur le score de 3-0. Laval a battu Le Mans 2-1. 1-0 pour Avranches face au Red Star. 1 partout entre Saint-Brieuc et Quevilly-Rouen. 0-0 entre Concarneau et Bourg-en-Bresse. Le match n'est pas encore terminé. Et puis Créteil-Boulogne-sur-Mer a été reporté. Puis il y a des matchs dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, dans la zone Europe notamment. Au moment où l'on parle, le Portugal mène 2-0 en Serbie. 0-0 entre l'Irlande et le Luxembourg. 4-2, c'est fini. La Biélorussie a battu l'Estonie. 0-0 entre la République tchèque et la Belgique. On approche, on est à la mi-temps. C'est un match en cours. Le Monténégro a battu Gibraltar 4-1. Les Pays-Bas ont battu la Lettonie 2-0. Victoire de la Turquie. Impressionnante la Turquie en ce moment.
Oui.
3-0 sur la pelouse de la Norvège. La Russie a battu la Slovénie 2-1. Victoire de la Croatie face à Chypre 1-0. Et match en cours, on est à la mi-temps. Malte mène 2-0 sur la pelouse de la Slovaquie.